Chapitre 4. Lorsque Gênes m'a annoncé sa maladie, je n'avais comme expérience de la mort de proche que celle de mon père, 4 ans plus tôt, qu'on avait trouvé près de son lit, ayant terminé sa vie à l'aube d'un matin d'été, agenouillé sur ses 89 ans, ainsi que celle plus lointaine de compagnons en montagne. Ces dernières, tragiques et brutales, avaient touché des êtres jeunes, en pleine possession de leurs moyens physiques. Accidentelles, elles étaient le résultat d'une passion pour l'altitude et le risque, deux données auxquelles la grande majorité des êtres humains jamais ne se confrontent. L'alpinisme fut pour moi une passion violente, dont je peine aujourd'hui encore à guérir, même si mon corps, vieillissant peu à peu, me ramène d'année en année à la raison et à la mesure. Je ne sais pourquoi, à l'adolescence, a commencé à naître et grandir cet amour immodéré pour l'escalade et les sommets. Personne dans ma famille ne s'intéressait à aucun sport, et nous ne partions jamais en vacances, faute de moyens. La Lorraine est composée principalement de paysages de campagne, et même si les Vosges sont des montagnes, l'érosion les a réduites à des ballons aux formes rondes et à l'altitude modeste. Il me semble là encore que c'est la littérature et le cinéma qui m'ont désigné ce que le monde ne m'avait pas alors permis de voir. Et je dois à la fois ma soif et son contentement aux romans de Frison Roche, aux livres de Samivel, de Gaston Rébuffat, aux films allemands de l'entre-deux-guerres comme La Lumière Bleue, dans lesquels Leni Riefenstahl, actrice et réalisatrice, semble possédée par une ivresse du vide et de l'effort que je n'avais jamais expérimenté, à ceux de Marcel Ishak, de René Vernadet, de Gérard Herzog, et à bien d'autres encore obscurs documentaires d'expéditions himalayennes tournés en 16 mm par des mains engourdies dans lesquelles des créatures recouvertes par de multiples couches de duvet, les yeux disparaissant derrière des lunettes de soudeur, avancent pas à pas, courbés contre le vent, sur une interminable arête de neige, comme si leur but était un peu plus loin de marcher enfin sur le ciel lui-même. L'alpinisme n'est pas seulement un sport, c'est un désir de mesurer la disparité des proportions, celle de l'espace comme celle du temps. L'homme qui grimpe se confronte à des éléments à l'aune desquels sa taille et sa durée dans le monde représentent une quantité négligeable, si infinitésimale qu'elle serait écartée dans ses calculs par les plus scrupuleux des mathématiciens. Là-bas, là-haut, nous ne sommes rien. Et les efforts que nous produisons pour nous donner l'illusion que pendant un bref instant nous sommes maîtres du lieu, sous prétexte que nous sommes parvenus à tracer une voie et atteindre un sommet, laisse indifférents les masses considérables de glace et de pierre parmi lesquelles nos corps souffrent, nos doigts s'écorchent, nos lèvres se craquellent et nos yeux brûlent. L'alpinisme est une leçon rugueuse de philosophie. Mais il y a aussi dans le sentiment qui étreint celui qui arrive enfin en haut de la voie qu'il a tracée, et contemple à ses pieds le monde d'où il vient et vers lequel très vite il lui faudra redescendre, une joie qui ne comporte aucune paille, aucun défaut. Il m'a toujours semblé qu'en ces territoires, à proprement parler inhumains, pouvaient s'éprouver au plus haut degré les sentiments humains qui portent et justifient nos vies, débarrassés miraculeusement des grossières souillures dont le monde les charge. Ainsi s'explique le jeu avec le danger et parfois la mort. Mais ce n'est jamais elle que l'alpiniste cherche en montagne. Il s'agit plutôt pour lui d'explorer le plus loin possible cette expérience des sentiments purs dont je viens de parler, d'atteindre leur perfection, leur quintessence de ces sentiments et de jouir du vertige qui nous saisit quand nous les ressentons augmenté par la fatigue qui plie, malaxe, malmène divinement chaque muscle de notre corps comme une main de masseuse forte et violente. Quand j'essayais d'expliquer cela à Eugène, il s'enrubannait dans la fumée de sa cravenne A et me souriait de façon moqueuse. Je revois les visages de Marco, d'Alain, de Tipol, de Nicolas, de Chloé, des deux Patrick. Tous morts en montagne, dans les Alpes, les Andes, le Karakorum, dans le cirque des Annapurna, au Spitzberg. Je les revois vivants, avant leur départ, dans les derniers moments, jeunes futurs morts, buvant des bières à la terrasse de Café Chamoniard, où nous nous vautrions dans nos puanteurs de grimpeurs mal lavés, regardant passer les garçons et les filles, les belles filles des étés infinis, et qui nous regardaient elles aussi, nous qui étions sales et brûlés par le plus haut des soleils, celui des dieux et du vide. J'apprenais leur mort par un coup de téléphone, le télégramme d'un copain, une brève notice dans un journal. C'était toujours des morts lointaines, détachées de ma vie, même si parfois je connaissais le lieu où ils avaient disparu, que je pouvais imaginer leur tombeau immense, battu par les vents, les chutes de pierres, de séracs et les avalanches. Pour moi, ils n'étaient pas tout à fait morts. Ils n'étaient plus dans la vie. Ce n'était pas la même chose. Puis il y eut Gary, et ce fut différent. J'ai dormi 3 nuits à côté de son corps. Dormir n'est pas le mot, je n'ai guère fermé l'œil. Gary, quant à lui, a gardé les siens grands ouverts. Je ne suis pas parvenu à les lui fermer. Le mauvais temps nous avait surpris dans la descente des dames anglaises, qui sont 2 sentinelles de granit coupant l'élégante arête de Peuteret, qui court côté italien jusqu'au sommet du Mont Blanc, et dont on peut voir de Courmayeur l'immense dessin de roches noires et de dentelles de neige. Nous avions 28 ans tous les deux. Nous grimpions ensemble depuis 6 ans déjà. Nous formions une cordée, c'est-à-dire une entité qui n'existe pas en dehors de ce monde de l'altitude. Un couple d'êtres humains dont chaque membre remet dans les mains de l'autre sa vie à chaque instant, aveuglément. L'orage s'était abattu sur nous avec une rapidité imprévisible. Depuis notre réveil à notre bivouac, il faisait certes un peu trop chaud à cette altitude pour la saison, nous étions mi-juin, mais nous n'y avions pas prêté attention. Quelques nuages avaient commencé à verser dans le ciel un lait sale, des stratus inoffensifs et lents, puis ce furent vers les Jorasses, venant de la Suisse, des rouleaux bas, gonflés et noirs, comme d'immenses varices, poussés par un vent qui n'était que silence, mais courait sur le bleu du ciel, comme les vagues beiges de grandes marées sur les grèves. Gary glissait dans le dernier appel, quand j'ai entendu autour de moi voler les abeilles, comme on désigne dans ce milieu le phénomène sonore d'électricité statique, et vu se couvrir de flamèches bleuâtres et jaune citron la pointe de mon piolet et le bouquet de coinceurs et de pitons qui pendaient à mon baudrier. Quand j'ai levé la tête vers Gary pour l'avertir, il était au milieu du rappel et tourné sur lui-même en dessous d'un surplomb. Il chantait à tue-tête un air des Stones, Gimme Shelter. Mais le vent déjà emportait les paroles et rabattait vers lui les nuages qui faisait disparaître le haut des dames. L'orage, orange et zigzagant, sortit soudain de la masse grise et frappa mon compagnon, le touchant, il me semble, au niveau de la poitrine. Il lâcha la corde et son descendeur libéré le fit précipitamment chuter comme une balle de tissu pendouillante. Les nœuds d'arrêt que je faisais toujours au bas des 2 brins du rappel le stoppèrent net à 1 mètre de moi. L'élasticité de la corde lui fit faire quelques rebonds, comme un pantin, puis il finit par s'immobiliser, les bras le long de son corps, inerte, la tête basculée sur son épaule droite. Un peu de sang s'écoulait de ses 2 oreilles, ses lèvres bougeaient. Il murmurait quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Ses yeux regardaient un point lointain derrière moi. Je fis au plus vite pour le libérer de la corde, le vacher au relais, l'asseoir sur la petite vire où nous pouvions tenir à 2. 2 autres éclairs claquèrent près de nous, faisant éclater des blocs de rochers qui s'écroulèrent dans le vide. montèrent des profondeurs des odeurs de poudre et de gravier mouillé. Puis l'orage continua plus loin sa colère. Le brouillard nous déroba au paysage. La température s'effondra et bientôt, les premiers flocons se mirent à volter autour de nous.
Yeah, the storm is threatening my very life today. If I don't get some shelter, Lord, I'm gonna fade away.
Gary chantonnait. Mon compagnon quittait la vie sur un air des Rolling Stones. Je l'avais installé tout contre moi et l'avais recouvert de sa doudoune, de la toile de notre tente. J'avais ôté son casque et lui avais passé sa cagoule et sur ses mains une paire de gants de soie et ses grosses moufles de laine. Il neigeait dru. Le sang continuait à suinter de ses oreilles. Un écoulement mince, ininterrompu, qui séchait vite dans sa nuque et sur le bord de la cagoule, la coloriant de traînées d'un rouge sombre. Il ne répondait à aucune de mes questions, à aucune de mes sollicitations. Il paraissait ne plus me voir ni m'entendre. Il donnait l'impression de ne pas souffrir. Son visage était calme. De temps à autre, il me semblait y voir un sourire. Je chassais les flocons qui se déposaient sur lui avec insolence. Je lui tenais les mains.
J'ai tenté de lui faire boire ce qui restait dans la thermos,
mais le thé s'écoula sur le bord de ses lèvres qui ne cessaient de murmurer.
If I don't get some shelter, Lord, I'm gonna fade away. Lord, I'm gonna fade away. Lord, I'm gonna fade away.
Il y eut la première nuit, interminable, qui valait 1000 nuits. Au matin suivant, Gary avait cessé de chanter. Puis il y eut les deux nuits suivantes, et ensuite toutes les autres qui sont ma vie.
Lord, I'm gonna fade away. Fade away. Fade away.
Dans le tiroir de ma table de chevet, j'ai la dernière photographie que j'ai prise de Gary, quelques heures seulement avant l'accident. Il est au sommet de la noire de Petré. Il sourit, il me regarde. Il a 28 ans. Il est dans l'exubérante beauté de la jeunesse. Il ne sait pas encore qu'il s'apprête à se retirer du temps. Je prends souvent la photographie dans mes mains. Je le regarde d'où il est. Je lui rends son sourire. Ou c'est à moi que je souris, un moi lointain et qui n'est plus. J'ai mis des années avant de pouvoir raconter à Eugène l'histoire de Gary, arrêté par la crainte de trahir un ami mort en le livrant à un ami vivant. Et un jour, je lui ai tout dit. C'était l'hiver. Il neigeait au dehors. Une neige en appela une autre. Eugène m'écouta en fumant ses Craven A. Quelques jours plus tard, il m'offrit « Ascension » de Ludwig Hall, un récit limpide de montagne et d'amitié. Cela devrait te plaire.